Nous sommes là dans la première épître à Timothée. C'est au chapitre 4. J'aimerais voir le verset 8. Depuis le verset 8, il est dit, il avait dit d'abord, repousse les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi à la piété. Maintenant, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, la piété, je ne sais pas si je vous l'avais dit une fois déjà, mais la piété, j'ai regardé encore, c'est un fervent attachement au service de Dieu, aux devoirs et aux pratiques de la foi. Dans le dictionnaire, ils mettent de la religion, mais moi je dis de la foi. La piété, donc, c'est un fervent, ça veut dire, c'est pas en passant, c'est quelque chose de précieux pour la personne, une personne fervente, sa ferveur s'adresse, c'est comme une adoration, si vous voulez, c'est un engagement, donc c'est un fervent attachement au service de Dieu et aux devoirs et pratiques de la foi du croyant, évidemment. Donc, il y a un attachement, la piété. Alors, avant, il a dit, premièrement, repousse les contes profanes de vieilles femmes, ça veut dire les histoires inventées pour... Pourquoi ils ont employé le mot les contes profanes de vieilles femmes. Pourquoi des vieilles femmes? Ben parce qu'en général, c'était des vieilles mamans, des grands-mamans, qui voulaient entretenir l'imagination des petits-enfants. Alors, elles inventaient des histoires. C'est des contes. Je veux dire, c'est des fables, c'est rien de réel, mais c'est brodé, et c'est même pas logique, hein, quelquefois. C'est des contes, c'est des vrais contes. C'est des contes pour distraire, malgré que c'est faux, malgré que ça n'a pas de la valeur, mais surtout, donc, premièrement, il dit, parce qu'il y en a qui font des contes aussi, des histoires religieuses, mais qui ne sont pas vraies, qui ne reposent pas sur la vérité, et puis il y a des contes profanes, des histoires pour attirer les gens dans la religion, surtout c'est dans les milieux religieux qu'on peut faire des histoires comme ça, des inventions, même des histoires qui n'ont jamais eu. On parle de quelqu'un qui a fait ceci, qui a fait cela, mais en réalité il n'a jamais rien fait. Hein? Mais c'est inventé pour dire, voyez chez nous, on a des gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Et ils ont fait des choses, expérience extraordinaire avec Dieu. Par contre, nous savons, nous croyons dans les manifestations de ce que Dieu a fait avec notre frère Branham, et dans ce temps, avec ceux qui ont été vraiment, qui ont fait une expérience avec Dieu, il y a des choses qui sont incroyables, mais qui sont vraies, que Dieu a faites. Cela, c'est pas des contes. C'est simplement la réalité que Dieu qui est venu au secours, Dieu qui a fait des guérisons miraculeuses, c'est pas des contes. Mais ces choses-là, oui, sont utiles, elles sont nécessaires. Mais il dit surtout, donc après avoir dit repousser les contes profanes des vieilles femmes, il dit exerce-toi à la piété. Donc la piété, on vient de voir ce que c'est. C'est un fervent attachement à Dieu lui-même. J'ai toujours besoin de regarder. Au service de Dieu. Oui, au service de Dieu, aux devoirs et aux pratiques de la marche avec Dieu. Donc un fervent attachement. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Il dit exerce-toi. Enfin, il faut aussi examiner le mot « exercer ». Peut-être que Ça vous a peut-être aussi frappé, le frère Bras employé facilement ce terme, exercice spirituel. Un exercice spirituel, eh bien justement, c'est ça. C'est s'exercer. Il a dit, exerce-toi à la piété, donc à l'exercice de la piété, qui est de s'attacher au Seigneur, s'attacher au service, s'attacher à pratiquer les choses qui sont agréables à Dieu, qui ont été manifestées autrefois et par les premiers apôtres en particulier. Mais c'est un exercice. Alors, un exercice, c'est pas toujours facile. Je veux dire que pourquoi on doit s'exercer? C'est parce que, bon, parce qu'il va l'opposer à l'exercice corporel. Maintenant, si vous voulez devenir un coureur, vous devez apprendre à courir toujours plus vite. Vous devez faire des efforts. Pourquoi? Les exercices, c'est justement d'arriver à trouver, le rythme qu'on peut atteindre. Et ensuite, un exercice, c'est premièrement pour atteindre un certain degré, et puis ensuite, c'est pour garder ce certain degré. Même pour faire du piano. Si vous ne faites pas d'exercice de piano, vous avez peut-être bien appris le piano, mais ça va vite partir, hein, parce qu'il faut de l'exercice, il faut le maintenir, il faut l'entretenir. Mais toute chose qu'on veut pratiquer, il faut qu'on s'exerce. Ainsi, c'est ça qu'il veut montrer ici l'apôtre Paul. C'est que c'est pas acquis pour toujours, c'est un travail, de même qu'un athlète, et c'est un travail, il faut tâcher de progresser, surtout, mais aussi surtout de maintenir, hein, pour maintenir. Il arrive à un certain point, il dit, maintenant je ne peux pas aller plus haut, mais il faut tâcher de maintenir comment se dire, j'ai atteint ce but, il faut que je tâche de me maintenir dans cet exercice-là. Donc, dans le domaine spirituel, c'est là l'image que l'apôtre Paul, il a employée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Vous dire, oui, c'est utile de marcher, c'est utile, c'est sûr, c'est de s'assouplir peut-être, moi je ne sais pas, il y en a qui font l'exercice pour pas être trop raide, hein, quand on commence à devenir plus âgé. Bon, c'est bien, c'est utile, mais ce n'est pas ça qui est essentiel, ce qui est plus important, il s'agit de maintenir le corps. Donc, l'exercice corporel, c'est pour le corps, mais maintenant, l'exercice spirituel qui nous est demandé là, il s'agit de nous maintenir dans une certaine communion pour être prêt à marcher avec le Seigneur, pour être prêt à exécuter ce qu'il veut qu'on exécute. Donc, il y a quand même un exercice qu'on doit faire. Et puis, quand il arrive une occasion particulière, alors on n'est pas surpris si on est ankylosé au moment qu'on doit faire quelque chose. On n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il montre bien que la supériorité, il y a ici une supériorité pour l'exercice spirituel de la piété. Donc, l'exercice corporel est utile à peu de choses, oui, c'est déjà bien, mais la piété est utile à toute chose, à toute, oui, ça veut dire toute chose. L'exercice de la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La vie présente, c'est le comportement que le Seigneur veut manifester au travers des membres de son corps. Ce corps, il a besoin, les membres du corps, ils ont besoin d'un exercice pour pratiquer les choses qui doivent être pratiquées, des gens qui peuvent être pratiqués, qui peuvent glorifier le Seigneur, notre comportement, nos paroles, je ne sais pas, tant de choses qu'on peut faire, qui sont un bon témoignage, qui sont, oui, déjà maintenant pour le monde, mais d'autant plus pour la vie éternelle, parce que ça nous prépare aussi, parce qu'il s'agit, il y a une préparation, on parle de l'enlèvement du corps de Christ, mais ceux qui seront enlevés, c'est quand même des gens qui se sont préparés pour la vie éternelle, qui cherchent à, et qui s'exercent à être conformes à ce que le Seigneur Jésus a manifesté, à la vie qu'il a manifestée. Donc, c'est pour la vie éternelle, c'est pour être dans l'enlèvement. Parce que si on n'est pas exercé au moment d'être prêt à l'enlèvement, on ne sera pas prêt. Je veux dire, on sera encore ankylosé, on sera, je ne sais pas, pas capable de faire des choses que le Seigneur va nous demander qu'il faut faire à ce moment-là. Puisque certainement, son épouse, elle va rendre un témoignage. À la fin, elle a un témoignage, puisque c'est écrit comme cela, que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage, puis viendra la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin, il parle pour les vainqueurs, il parle pour le corps de Christ. Donc, c'est eux, ils ont à apporter cet évangile du royaume d'une manière pratique que finalement, juste vers la fin, ils sont vraiment prêts à entrer parce qu'ils pratiquent cette vie. Ils sont exercés à la piété, au service. Et alors, ils sont prêts, tout simplement. Il s'agit donc de se préparer pour le temps présent, pour être aussi réjoui de ce que on arrive à marcher quand même. On dit, oh, je suis au bout du rouleau, je peux plus, je peux plus. Puis on continue quand même, et puis on s'aperçoit quand même, on est arrivé au bout. Tout le monde dit, oh, on s'arrête, on va plus. Alors, une autre fois, on se dit, si c'est de nouveau un exercice pareil, ah ben, on dit, ben l'autre fois, hein, j'ai réussi à passer, ben cette fois, je vais passer aussi. Quand la difficulté où on est au bout, semble-t-il, du rouleau, ben on dit, ah non, j'ai bien passé l'autre fois, il n'y a qu'à continuer, on continue, malgré tout. Amen. Donc, l'exercice est quand même quelque chose d'important. Il y a un exercice à faire. S'exercer à marcher, à vivre comme le Seigneur lui-même a marché. Et donc, elle est utile à tout, à tout. Et puis, elle a la promesse de la vie présente, la vie présente pour nous, la vie présente, c'est être heureux de pratiquer des choses qui sont justes. Être heureux de ne pas faire comme autrefois, de se laisser tromper, de se laisser conduire à des autres choses. Alors, il y a un bonheur, vraiment, il y a déjà un bénéfice dans le temps présent. Et puis surtout, quand le jour de l'enlèvement a lieu, on est heureux d'être arrivé au bout. Et de la vie de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est là ce que je viens de vous dire. Cet exercice. C'est là. Mais il a dit, rappelez-vous, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toutes choses, toutes choses, toutes. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là. C'est là une chose, une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donc, ce n'est pas une petite chose, c'est une parole certaine et entièrement digne. C'est-à-dire qu'elle a une grande valeur. Une grande valeur. Si on s'exerce à la piété, c'est une grande valeur. Et puis, vraiment, le Seigneur veut nous exercer de manière qu'on soit réjouis de voir nous-mêmes les progrès qu'on peut faire par le secours du Seigneur et par l'exercice de la piété. Donc, nous travaillons, verset 10 maintenant. Nous travaillons, en effet, et nous combattons. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Donc, deux choses. Nous travaillons et nous combattons. Donc, travailler, c'est mettre en valeur le terrain, par exemple. On travaille. On cultive, on laboure, on fait un travail. Bon, on travaille. Ça va produire. Maintenant, nous combattons. Pourquoi? Parce qu'on est attaqué. C'est pas qu'on aimerait combattre, je veux dire. Mais quand on a affaire à l'ennemi, il faut combattre. Il semble que, alors là, c'est un combat, c'est pas un plaisir, ça va pas rapporter. Oui, on va préserver sa vie. C'est sûr, c'est pour garder notre vie. Si on combat, le combat, c'est ensemble pour sauver notre vie, en quelque sorte. Pour pas retomber sur l'esclavage du diable. Pour pas retomber dans la vieille nature. Donc, mais il y a les deux. Il y a le travail et les deux sont associés. Nous travaillons, en effet, et nous combattons. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Mais que ce soit le travail ou que ce soit le combat, son moteur, sa raison d'être, c'est que nous avons notre espérance dans le Dieu vivant. Notre espérance. Parce que les fruits, même les fruits, disons, on va peut-être pas les voir. Maintenant, plus tard, au feu du Seigneur, on les verra les fruits. Vous voyez? Même si nous travaillons, dire, oh, c'est en vain, on a travaillé. Non, tu ne peux pas savoir. Les fruits, c'est plus tard qu'on les connaîtra. Mais quand même, le combat, si je ne combats pas, ben je m'en vais périr. Alors, je suis récompensé tout de suite. Mais les deux, c'est parce que nous avons notre espérance dans le Dieu vivant. Notre espérance dans le Dieu qui peut se manifester dans ce combat, dans ce travail. Que ce soit le travail, que ce soit le combat, on espère, on attend le secours. Pour le travail, quand on est fatigué, et puis on dit, il faut quand même que j'arrive à finir ce travail, eh bien, on dit Seigneur, aide-moi. Enfin, on compte sur le Dieu vivant qui peut faire en sorte que la fatigue ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Hein? C'est aussi une intervention de sa part. Ça vient parce que nous mettons dans ce travail, comme dans le combat, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, le Dieu qui est présent. Le Dieu qui agit, qu'on ne voit pas, mais qui dans cette situation va intervenir au moment peut-être où on désespère un peu, hein. Mais nous avons cette espérance. Parce que l'espérance, c'est différent de la foi. La foi, c'est une assurance des choses qu'on ne voit pas. L'espérance, c'est l'attente d'une chose. Qu'on espère, on n'est pas sûr qu'on va l'avoir, mais On espère qu'on va l'avoir. Hein? On n'est pas très très sûr. Non, mais nous avons notre espérance dans le Dieu vivant. Alors nous avons l'assurance. Évidemment qu'il faut d'abord avoir la foi, l'assurance dans le Dieu vivant. Que ce n'est pas en vain qu'on cherche à connaître ce Dieu-là, et ce n'est pas en vain qu'on s'attache à lui, qu'on est fervent, comme on a lu ici au sujet de la piété, l'attachement, un fervent attachement au service de Dieu. Donc ça, il y a la piété et il y a la foi dans ce Dieu-là que vraiment c'est le vrai. C'est pour ça que nous devons bien combattre pour que cette parole, cette révélation de la parole qui a été apportée par le prophète au temps du soir, puisse de nouveau, puisse encore être apportée à minuit. Hein? Il y en a qui font comme une opposition, il n'y a pas d'opposition. Peut-être que pendant le sommeil, on a été volé, dépouillé, mais il faut reprendre. Il faut reposséder, faut reprendre les choses. C'est pour ça que il faut encore tout reviser, les vérités bibliques qui ont été bien mises en avant par les prédications de Frère Branham. Il faut persévérer dans cette étude pour être bien pénétré de ce que Dieu attend de nous. Si Dieu a envoyé un prophète, c'est pour nous ramener à un certain point, une certaine connaissance, une certaine communion. Alors, si on l'a perdu, il faut le rétablir et aller de l'avant. Et aller de l'avant. Aller plus en avant. Donc, c'est un rétablissement de ce message qui doit être manifesté. C'est la poursuite de ce message, poursuite de l'exercice, je dirais, de ce message on doit aller, on doit persévérer. C'est pour ça qu'il y a le combat, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Donc, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. C'est vrai. Il est le sauveur de tous les hommes, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des croyants, sont sauvés, mais c'est vrai, il a pourvu pour que tous puissent être sauvés. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et il a pourvu par le sacrifice de Jésus-Christ pour le salut de tous les hommes. Ça, c'est une vérité. Seulement, c'est le croyant qui va recevoir. Le croyant. Et c'est pour ça qu'il ajoute bien le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà. Dieu voudrait que tous soient sauvés, mais ceux qui croient, c'est absolument certain qu'ils vont être sauvés. C'est pas possible qu'il ne soit pas sauvé. Si vous êtes croyant, vous serez absolument sauvé. En tant qu'homme, vous pouvez être sauvé. N'importe qui peut être sauvé s'il veut prendre le don de Dieu, s'il veut accepter le Fils de Dieu, s'il veut accepter l'œuvre que lui-même a accomplie, que Dieu a accomplie en Jésus-Christ, il va être sauvé. Mais c'est qu'à ce moment-là, il est devenu croyant. S'il a accepté, c'est qu'il est devenu croyant. Mais ceux qui sont croyants dès le départ, ils sont soumis à des épreuves. Ils doivent combattre et ils doivent travailler dans ce sens-là, parce qu'il semble qu'il faut reprendre son travail, il faut tout recommencer. On a dit, on avait tout bien travaillé, on avait bien fait le travail. Vous voyez, nous, on ne se rend pas compte, nous, on a facilement de l'eau. Mais quand on va dans des pays comme Haïti, par exemple, ou d'autres pays en Afrique, vous avez les premières pluies, le terrain est préparé, vous préparez, vous labourez, vous semez. Mais si il va venir une pluie, mais s'il n'y en a pas deux, s'il vient une première pluie, ça va lever. S'il n'y en a pas deux, tout va sécher. Qu'est-ce que tu dois faire? Attention, il y en a qui peuvent labourer leur champ et ressemer plusieurs fois, jusqu'à ce que ça ait réussi à s'enraciner. S'enraciner. Alors, une fois que c'est enraciné, et même si on entend un peu de sécheresse, ça peut attendre encore. Ils peuvent quand même prospérer un peu. Ainsi, il y a des fois, est-ce que ça vaut la peine? Oui, il faut être sûr qu'il y a je ne peux pas dire, il y a une récolte, mais je veux dire, ce n'est encore rien, il y a une levée. Je sais pas comment on dit ça, mais il y a une levée de la semence, c'est tout. Il y a une levée, il y a un commencement, il y a de l'herbe qui pousse, pour être sûr. Mais si tout ça a été grillé, ça peut arriver que ça arrive aussi chez nous, c'est grillé par le gel ou par une autre cause, ça peut être grillé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de nouveau recommencer afin que finalement il y ait une récolte, qu'on puisse avoir la récolte. Donc nous travaillons et le Seigneur, nous avons cette espérance dans le Dieu vivant, qui, si nous sommes des croyants, c'est certain qu'il va nous sauver. Et ensuite, il peut dire, il termine en disant verset 11, déclare ces choses et enseigne-les. Déclare et enseigne. Ça veut dire, dis ce que c'est que la vérité. C'est vrai, il y a une lutte, un travail et un combat. Il y a un exercice qu'on doit peut-être reprendre plusieurs fois, mais finalement, il y a un salut. Il y a un salut, si on a confiance dans le Dieu vivant, il y a le salut qui est manifesté pour nous. Et puis après, il continue, il dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Donc, cette exhortation, elle était adressée à Timothée parce que c'était un jeune homme. Il avait un appel de Dieu, mais il était jeune et en somme, il faisait que de commencer à porter le témoignage. Et il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire, ça c'est de la part de Dieu. Je veux dire, quand Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse, c'est comme si c'est Dieu qui lui dit, tu es jeune, mais ne t'en fais pas. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pas ça. Tu as reçu quelque chose, maintenant exerce-toi. Fais ton travail. Et là encore, c'est la même exhortation dans le sens qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. C'est-à-dire, malgré que tu es jeune, eh ben, tu dois travailler, tu dois combattre pour être un modèle. Un modèle selon la parole de Dieu, selon la connaissance des voies de Dieu qui t'ont été données jusqu'à maintenant, eh bien, que toi-même, tu puisses être un modèle. Et nous savons que Timothée était avec Paul, et c'était Paul qui l'avait enseigné. Donc, et il avait appris aussi avec Paul à répondre à certaines attaques de l'adversaire. C'est pour ça qu'il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc, pour les fidèles, c'est donc soit un modèle Pour les fidèles, ça veut dire pour les autres croyants, ceux qui sont croyants. Pour les autres, de l'être, les gens du dehors, ils peuvent mépriser ta jeunesse, mais toi, tu sais ce que tu es. Et toi, eh bien, combat pour être un modèle et que tous les frères et sœurs, les croyants puissent voir que tu es. Tu marches dans la vérité, tu marches comme tu as été enseigné par Paul, dans les paroles, dans la conduite, dans l'amour que le Seigneur veut manifester dans le croyant, dans cet amour qu'il met en nous et qu'il manifeste par l'Esprit pour Dieu, pour sa parole et pour ceux qui reçoivent la parole. Pour les croyants ou pour les incrédules, il y a quand même le même amour de Dieu qui est manifesté et qui fait que, malgré l'opposition, on peut aller et maintenir notre position devant eux. Donc, en foi, en pureté. Je ne veux pas parler là-dessus, sur l'amour, la foi, la pureté et ces choses-là, mais nous, on sait ce que c'est quand même. Que l'amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis les uns des autres. Et la foi, eh bien, c'est la foi dans la parole, la foi dans les choses que Dieu a dites et qui ont été faites par le Seigneur. La pureté, eh bien, c'est la sanctification. La pureté, c'est qu'on a été sanctifié dans notre marche, dans la pratique de notre conduite. Donc, que ce soit un modèle dans ces choses-là. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc là, il parle du travail, du témoignage que Timothée devait apporter dans l'assemblée elle-même. Donc il lui montre ce qu'il doit, les choses essentielles qu'il doit peut-être apporter dans l'assemblée. Eh bien, il dit, premièrement, la lecture de la parole, évidemment. Il s'agit de la parole de Dieu. L'exhortation, pour ceux qui ont besoin d'être exhortés, parce qu'ils sont éprouvés, parce ils ont des problèmes, ils ont besoin d'être exhortés pour savoir comment marcher, pour aller plus en avant. Et à l'enseignement. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, ne méprise pas le don qui est en toi. Ça veut dire que il avait quand même le disciple Timothée, il avait un ministère. Il avait un ministère de la parole. Peut-être qu'il n'était pas très manifesté, je veux dire, mais il avait quand même un ministère pour apporter la parole. Alors, il lui exhorte à Timothée, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, quelque chose que tu as en toi, que tu as reçu de Dieu. Et c'est quelque chose qui doit être soigné, qui doit pouvoir se développer. Et les exhortations même qu'il a faites auparavant, eh bien, cet exercice qu'il lui dit de s'exercer à la piété et toutes ces choses-là, c'est justement de croître, que ce don puisse se manifester dans la connaissance de la volonté de Dieu, pas n'importe quoi, mais que vraiment ce don puisse s'exercer conformément à la parole de Dieu. Donc, néglige pas. Il ne doit pas être, là, il parle du mot de négliger. Il peut arriver qu'on néglige de développer ce don que Dieu nous a donné. Et on ne doit pas négliger parce que il doit avoir un développement. Il y a un commencement, mais c'est pas parce qu'on a pu apporter quelque chose de bien, Et puis dire, oh bien, cette fois, on est arrivé, on est des maîtres, non? Et non. Si tu as pu apporter quelque chose de bien, ben, certainement que tu peux faire encore mieux. C'est quelque chose qui doit pouvoir grandir. Donc, ne pas négliger le fait que le don, on ne peut pas dire, oh ben, tout est parfait, j'ai reçu le don, je suis un ministre. Je suis un ministre, et puis on ne s'occupe pas du ministère dans ce sens-là. On ne s'occupe pas du message qu'on devrait apporter. C'est pas faisable. Il faut qu'on puisse s'occuper, étudier encore, et prouver, comparer avec l'écriture, voir si c'est vraiment ça. Il faut donc, il y a, là, il lui dit de veiller sur cette négligence. Et il lui dit, il rappelle que ce don t'a été donné par prophétie. Ça veut dire que lui-même, il ne savait pas, mais un jour, il y a eu une prophétie qui est venue. Il était dans l'église, et la prophétie est venue, qui lui a dit, qui lui a fait connaître le don qu'il avait reçu. Et alors, les anciens, voyant qu'il y avait une prophétie sur le don qu'il avait, un don qu'il avait, peut-être un ministère, alors, les anciens, ils ont prié, et plus spécialement, et ils lui ont imposé les mains afin qu'il puisse exercer ce don. C'est comme ça que c'est arrivé. Donc, comme ça que ce don, ce ministère, je pense que c'est plutôt un ministère parce qu'on voit bien qu'il était comme un apôtre, Timothée, qui est formé par Paul, en somme, pour continuer dans la même ligne que l'apôtre Paul. Donc, c'est ça l'exhortation qu'il peut lui donner. Ça lui était donné. Il est en toi. Il savait pas qu'il était en lui. Mais la prophétie lui a fait savoir que c'était en lui. C'était vraiment quelque chose que Dieu l'avait donné. Et les anciens ont confirmé qu'eux, ils croyaient la prophétie qui avait été faite. Alors, ils ont prié. Ils lui ont posé les mains, mais maintenant, il faut que lui, il exerce ce don. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Donc, ce don qu'il a reçu, occupe-toi de le développer, de le mettre en valeur, de le mettre au service des autres, puisque le don qui t'a été donné, et pour lequel les anciens ont même prié, c'est pour l'assemblée. Donc, occupe-toi d'être à disposition pour apporter ce service que le Seigneur a voulu que tu puisses apporter dans l'assemblée pour l'édification du corps. Donc, donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soit évident pour tous. Donc, encore là, on voit la même pensée. Il y a un travail qui doit être fait, il y a une lutte, il y a un combat peut-être. Eh bien, il faut que les progrès puissent être évidents pour tous. Verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, c'était ça son don. Qu'il avait reçu, c'était pour l'enseignement de la parole de Dieu dans le corps de Christ. Sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, c'est une exhortation qui était valable pour Timothée, mais qui est valable pour nous tous. Pour tous ceux qui ont conscience dans le service qu'ils doivent rendre au Seigneur, exercer en face du Seigneur, eh bien, il faut qu'on puisse faire des progrès et que les progrès soient visibles pour tous. Donc, tout ça nous montre bien qu'il y a dans le corps de Christ, en tant que membre du corps de Christ, il ne suffit pas de devenir membre du corps de Christ, si on a un service à accomplir, Il faut apprendre à le servir, à le mettre en valeur. Apprendre à travailler, tout simplement. C'est comme dans toute chose, sur cette terre, n'importe quel travail qu'on veut faire, une couturière, ben, je ne pense pas qu'elle va faire une robe le premier jour. Il faut quand même apprendre. Commencer par le commencement. Et n'importe quel métier, on va faire des progrès avec l'aide du Seigneur. Et pour nous, c'est la même chose. Mais ce qu'il y a, c'est que nous travaillons pour quelque chose qui demeure éternellement pour un royaume, et que finalement, on sera sauvé, comme il dit ici. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce qu'il y en a qui t'entendent. Si tu enseignes. Bon, très bien. Ah, j'étais.